Donc, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Effectivement, on va parler du monde dans lequel on vit et on va parler du Dieu qui est le nôtre. Amen. Alors, on va écouter un extrait de chanson et de chansonnette que certains peut-être y connaissent et que d'autres peut-être y connaissent pas. Écoutez bien, hein, les paroles sont profondes. Écoutez bien là, écoutez bien. Bon, vous pourrez rajouter. C'était Henri Salvador en 1971. Vous voyez, il y avait déjà des problèmes à l'époque. Il y a besoin d'être en 2026 pour qu'il y ait des problèmes. Bon, on pourrait rajouter. Au niveau des hôpitaux, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de l'éducation nationale, c'est pas la joie. Des agriculteurs, c'est pas la joie. De l'Assemblée nationale, c'est pas la joie. Du budget de l'État, c'est pas la joie. Il y a encore qu'au niveau de l'amour, que ça va toujours. Bon, là, c'était la situation actuelle de la France, n'est-ce pas? Penchons-nous maintenant vers l'international. Je vois qu'il y a des représentants de la profession médicale. Donc, peut-être s'il y a des personnes qui vont avoir un malaise en entendant toutes les mauvaises nouvelles que je vais leur dire. Il y aura de quoi, n'est-ce pas, pratiquer des premiers soins, oui, pour de la réanimation, n'est-ce pas? Donc, le directeur de l'IFRI, Institut français des relations internationales, expliquait, alors je vais le dire de nouveau parce que je m'aperçois que j'ai de nouveau parlé trop vite, Institut français des relations internationales. Expliqué la semaine dernière que l'économie mondiale a franchi en 2026 un point de bascule historique, l'effritement des normes internationales et du multilatéralisme laisse place à une logique de force brute. C'est pas la joie. Alors on constate qu'il y avait un ordre international qui avait été installé après la Seconde Guerre mondiale, un conflit absolument horrible. Et donc, ça reposait sur des institutions et des lois internationales qui étaient censées protéger le droit des nations. Et ça semble être un peu un bout de course. Hein. On dirait que ça s'efface pour faire place à un retour de certains appels une barbarie ancienne où la force fait le droit. Cette force, sur le plan spirituel, cette force est une idole. C'est une idole grimaçante. Hélas, elle séduit tant et tant et tellement de dirigeants dans ce monde. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, c'est l'histoire du monde, hein. Ça a toujours été comme ça. Bon, depuis que, n'est-ce pas, Caïn s'est jeté sur son frère Abel, ça a toujours été comme ça. En tout cas, cette force brute, d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent un peu d'Apocalypse, c'est une des caractéristiques du règne futur de l'Antichrist. Nous savons que l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. On dirait que cette force brute revient au premier plan depuis quelque temps.
JT, oui, mon petit Donaldou, qu'est-ce qu'il y a?
Ben, on n'arrête pas de me rabattre les oreilles avec le droit international. Mais enfin, mon petit Donald, c'est qui les plus forts?
Ben, c'est nous.
Ben, si c'est nous les plus forts, qui c'est qui crée le droit international?
C'est le plus fort.
Donc, tu veux le Groenland, tu le prends. Et tu laisses les autres rouspéter, être scandalisés, être indignés.
Oh, shocking! Oh, ils ne respectent rien. C'est un scandale, etc., etc. Tu les laisses tant qu'ils veulent. Toi, tu fais ce qui te plaît. C'est nous les plus forts. C'est nous first.
First, nous, nos intérêts avant tout, les autres. L'invasion de l'Ukraine par un certain Vladimir Poutine aussi, c'est pas pour nous rassurer, surtout qu'il y a quelques menaces sur les sociétés démocratiques de l'Ouest. Voilà. Ajoutons à cela, alors c'est toujours pas la joie, hein. Ajoutons à cela le réchauffement climatique, bouleversements qui sont provoqués par ce réchauffement climatique. Ça va, le tableau il est en train de s'assombrir encore. Ça va, les morales, là c'est... Tenez, là, bon. Sécheresse, incendie de forêt, ouragan, et des catastrophes naturelles qui vont se répéter et qui vont être de plus en plus fortes. Et qui le font, c'est déjà le cas, d'ailleurs. Hein. Il y a la montée des eaux, le danger que les plaines côtières soient submergées avec des villes, côtières qui soient submergées, et des grandes villes, même. Disparition accélérée des espèces animales et végétales, acidification des océans, raréfaction de l'eau douce, augmentation des migrations humaines, etc., etc. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a même des gens, les collapsologues, qui prévoient un effondrement de notre civilisation, figurez-vous, par la conjugaison de crises écologiques, économiques et financières, politiques et géopolitiques. C'est toujours pas la joie, c'est toujours pas la joie. Et qui plus est, ce qui nous concerne plus directement, nous les chrétiens, l'ONG Portes Ouvertes vient de publier son index mondial de persécution des chrétiens. Ça s'arrange toujours pas pour les chrétiens. La persécution a encore augmenté en intensité depuis l'an dernier. Bon, j'ai bien plombé l'ambiance. Vous avez peur ou non? Vous n'êtes pas comme ça? Qu'est-ce que t'as? T'as croisé le Yeti? Non. T'as croisé Vladimir Poutine? Non. Non, ne me dis pas que... Non, mais si c'est ça, c'est gravé. Et les gars, là, il va falloir être là, parce que je crois bien qu'il a croisé Dominique. Je ne vous dis pas le traumatisme. Non, j'ai toujours pas ça. Alors qu'est-ce que t'as? J'ai été à l'église ce matin, il y a un mec avec des lunettes un peu bizarres qui nous a raconté des trucs, d'où je suis sorti, j'étais comme ça. Ça va aller? Bon, non, sérieusement, je veux pas vous coller la peur, je veux pas vous faire peur, c'est même tout le contraire, comme on va le voir par la suite. Avec ce qui suit. Dieu, c'est qui? C'est notre berger, le rocher des siècles. Donc, des bouleversements qu'on voit dans ce monde, plutôt négatifs. On a le droit d'être inquiet, il y a des raisons pour ça, on peut avoir peur même, c'est compréhensible. Un avenir qui a l'air, se dessine, qui a l'air plutôt sombre, incertain, pas rassurant. Bon, alors que de bouleversements interviennent dans le monde, franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, ça a toujours, c'est l'histoire du monde. Hein. Il n'y a rien qui reste figé. Ça bouge tout le temps, ça change dans un sens, ça change dans l'autre. Des fois, tant mieux, par la grâce de Dieu. Ça change vers une ère plutôt de paix et de prospérité. Alléluia, tant mieux, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ces temps-là. Et des fois non, des fois on va plutôt vers une période d'instabilité, des troubles politiques, des troubles économiques, hélas, trop souvent vers des conflits armés. À notre niveau, on pourrait dire qu'on n'a pas énormément de prise sur les grands événements de ce monde. Si ce n'est quand même par la prière dont Dieu peut se servir pour accomplir ses desseins, dans la conduite des destinées de ce monde. Bon, nous savons quand même une chose, tout, absolument tout, est sous le contrôle du Dieu vivant. Ce Dieu-là, il mène l'histoire de ce monde à son terme, on l'a entendu tout à l'heure, lors du retour de Jésus, comme nous l'a dit Frédéric. Alors là, au moment du retour de Jésus sera instauré une ère de paix qui n'aura jamais de fin. Une ère de paix durant laquelle la vie triomphera d'une manière pleine et entière, pour ne jamais, jamais, jamais se tarir. Dieu sera directement en communion avec sa création et avec ceux qui lui appartiennent, et cela pour l'éternité. En attendant ce temps ô combien béni, ben on continue d'habiter dans ce monde, agité, plein de soubresauts, et nous restons soumis aux aléas de l'histoire. Soumis à ces aléas, question. Alors oui, et peut-être non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde, tout simplement. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas dans une tour d'ivoire, d'accord. Non, aussi, pourquoi? Parce que si nous vivons dans ce monde, nous n'y vivons pas seuls. Notre Dieu, qui est notre Père Céleste, est avec nous chaque jour. Le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 6, fait parler de le Seigneur parle au travers de la bouche du prophète, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Tout peut bouger autour, tout peut, les soubresauts peuvent être énormes, comment dire, les bouleversements de ce monde peuvent être gigantesques. Lui, Dieu, il ne change pas. Il reste toujours le même. Alors la chanson d'Henri Salvador disait « C'est pas la joie, c'est pas la joie », mais elle finissait aussi par « Il y a encore qu'au niveau de l'amour que ça va toujours ». Oui, au niveau de l'amour que Dieu nous porte, ça va toujours et ça ira toujours. Si tu peux passer la diapo numéro 2, s'il te plaît. Voyez, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ça fait bien référence à des bouleversements. Et là, c'est Dieu qui nous parle. Mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors, il est vrai que, des fois, les bouleversements politiques, économiques peuvent nous mettre dans des situations un peu difficiles, mais quelles que soient les évolutions et les agitations de ce monde, quel que soit même le chaos dans lequel ce monde pourrait à un moment donné se trouver, Dieu ne change pas et son amour pour nous reste le même. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité ». Et là, il a une perspective éternelle. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher des siècles, ça fait penser à quoi? Ça fait penser au fait que rien ne trouble ni ne déstabilise le Dieu vivant, le Seigneur éternel. Assis sur son trône, rocher des siècles, il reste inébranlable. Alors effectivement, tout peut être ébranlé autour de nous, et comme je disais tout à l'heure, ça peut parfois nous impacter, et on pourrait dire que... mais est-ce que nos besoins seront pourvus? Est-ce que s'il y a des crises politiques, économiques, on va pas être impacté de façon à ce que, comment dire, au niveau de nos besoins de tous les jours, on va se retrouver dans des situations de précarité extrême? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Paul, lorsqu'il écrivait aux Philippiens, leur dit la chose suivante. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pierre aussi, lorsqu'il écrivait aux chrétiens qu'il écrivait, leur disait « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi ? Car lui-même prend soin de vous. L'Éternel Dieu, c'est le rocher des siècles et ce rocher est notre berger. Il prend soin de nous. » Dans les temps difficiles, même dans les temps de précarité, nous ne sommes pas abandonnés. Si tu peux passer la diapo numéro 3. Merci. Donc ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et puis le psalmiste nous dit la chose suivante. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors je vais vous donner un petit témoignage par rapport à ça. Il va y avoir quelques témoignages dans cette prédication. Ça va être aussi des prédications par témoignage. Alors, certains d'entre vous savent que nous avons vécu en Haïti avec Isabelle, avec des enfants en bas âge. Et lorsque nous étions là-bas, pendant quelques mois, on n'a pas eu de voiture. Et je pourrais vous raconter combien de fois le Seigneur a pourvu dans des situations inexplicables. Mais bon. Et donc là, on achète une voiture et la voiture nous coûte la moitié de notre budget. Parce que là-bas, en Haïti, les routes, ce n'est pas des routes. Il n'y a que des pistes et certaines, je peux vous dire, c'est complètement défoncé, quoi. Et comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on prenait les étudiants de Gonaïve pour aller dans le collège biblique de Bayonne, il y avait 5 places dans la voiture, on était 16 dans la voiture. 8 dans l'habitacle, 8 dans le coffre, un grand coffre. Et donc vous imaginez bien que tous les 6 mois, on change les amortisseurs. Et puis à un moment donné, donc, ce qui s'est passé, c'est que l'embrayage a lâché. Et donc, par la grâce de Dieu aussi, le Seigneur a pourvu, parce qu'il nous a envoyé... un très bon mécanicien haïtien, mais il a fallu payer donc la pièce, les ouvriers, leur manger, etc., 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 etc. Et ça nous a cassé le budget complètement. On n'avait plus d'argent pour la fin du mois. Alors, je n'ai pas fait une longue prière, je n'ai pas pris une semaine de jeûne et de prière, mais je me suis simplement mis devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, bon, voilà la situation, tu la connais. Alors, si Isabelle et moi, on ne mange pas, ce n'est pas grave. Mais les enfants, qui avaient entre 1 an et demi et 2 ans, et l'autre entre 2 ans et demi, 3 ans et demi et 4 ans. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Et là, sans que nous on sache rien, on l'a su plus tard, l'explication est venue plus tard, dans l'église d'où on était originaire en France, il y a un frère merveilleux, qui était donc d'origine de Côte d'Ivoire et qui venait juste de trouver un travail et juste de se marier. Donc vous imaginez qu'il y avait un besoin d'argent. Il y a des jeunes mariés qui peuvent en témoigner quand on vient de se marier. Voilà. Donc, et là, le Seigneur lui parle pendant le culte et lui dit, t'envoie telle somme à Philippe. Je crois que c'était, si je me souviens bien, ça correspondait à 500 francs de l'époque ou 1000 francs, je ne sais plus, enfin, donc quelque chose comme ça. Et alors, il sort du culte, il va voir sa femme, nouvellement mariée, il lui dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit, il faut que j'envoie telle somme à Philippe. Sa femme lui dit, non, mais attends, oh, oh, réfléchis là, on vient de se marier, t'as vu dans quelle situation on est, toi tu vas envoyer ça à Philippe, non, mais... Donc, il a fait ce que le verset dit, soumettez-vous à vos femmes, maris, comme il convient dans le Seigneur. C'est pas ça le verset ? Il y a beaucoup de maris qui l'appliquent, celui-là. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Bon, en tout cas, je plaisante. Et donc, d'accord, j'en vois pas. Le culte suivant, le Seigneur lui parle de la même façon. Tu envoies telle somme à Philippe en Haïti, je te le dis. Bon, là, cette fois-ci, il dit, écoute, ma chère et tendre épouse, non, là, le Seigneur m'a parlé, c'est clair. Et donc, moi, en Haïti, à un moment donné, on habitait dans le désert, dans une bicoque, dans le désert, n'est-ce pas ? Et puis, je vois arriver un coursier qui me donne un papier. Qu'est-ce que c'est, ce papier ? Je ne comprenais rien. Il y avait un nom, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que c'est ? Et c'était telle banque, tout ça, il fallait que j'aille parce que il y avait quelque chose qui m'attendait. Ah bon, j'avais eu, parce que au début, on allait chercher. À cette époque, on est à fin des années 90. C'est une autre époque, hein. C'est un autre monde que le monde d'aujourd'hui. À cette époque, on achetait pratiquement tout en liquide. Donc quand on avait besoin d'argent liquide, il fallait aller à Port-au-Prince pour. Pouvoir retirer de l'argent liquide des banques. Alors là-bas, en Haïti, on ne dit pas le nombre de kilomètres. Quand on dit « est-ce que c'est loin ?», on vous répond « c'est une heure de temps, deux heures de temps, trois heures de temps ». Voilà. Les kilomètres, ça ne veut rien dire. Et donc, c'était vraiment embêtant. Et par la grâce de Dieu, on avait pu, avec Isabelle, ouvrir un compte à Gonaïve même. Ouf. Je ne vous dis pas les heures et la fatigue qui étaient économisées grâce à ça. En tout cas, je me pointe là-bas à la banque et c'était un mandat international. Et c'était la somme dont on avait besoin, plus 10%, parce qu'avec Isabelle, on avait toujours l'habitude de donner 10%, de consacrer 10% de nos revenus à ceux qui avaient des besoins. Alors, on n'est pas soumis à la dîme, on ne pense pas qu'on doit être soumis à la dîme, mais pour nous, c'est un... Oui, c'est un principe, c'est un guide, quoi, on va dire. Et donc, estomaqué, le Seigneur avait pourvu. Le Seigneur avait pourvu. Mais je pourrais en raconter des tas. Il n'y avait pas besoin d'être en Haïti. Hein. Bon, mais là, en Haïti, c'est vrai que on était dans un tel état, par rapport à ici, on est dans un tel état de dépendance de Dieu que Dieu agit plus souvent, on va dire. Plus souvent et de façon plus nette. Mais ça ne veut pas dire qu'en étant en France, il n'agit pas non plus. Je pourrais en raconter tellement de ce que le Seigneur a fait pour nous en France. Donc voilà, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Même si tout autour, même si vous êtes nous sommes dans une situation de précarité, notre Dieu reste le même. Il est notre berger. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Alors même en dehors des situations de précarité, il arrive parfois qu'on se retrouve dans des situations inextricables. On ne voit pas l'issue. Aux yeux humains, c'est sans espoir de solution. Aux yeux humains, c'est sans espérance de salut, c'est sans espérance de délivrance. Que faire quand il en est ainsi ? Donc si tu peux passer... pas encore. Que nous dit le psaume 121 ? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Et plus loin, il est écrit, l'Éternel est celui qui te garde. Autrement dit, l'Éternel, c'est ton protecteur. L'Éternel est ton protecteur. Alors je veux parler du témoignage d'un homme qui s'appelle toujours Alexander Ogorodnikov. Je m'excuse pour ceux à qui qui connaissent déjà ce témoignage et ceux à qui je l'ai déjà donné, mais peut-être d'autres ne le connaissent pas. Qui c'est qui ne connaît pas le témoignage de Alexander Ogorodnikov? Tous les autres, là, vous le connaissez? Ah, il y en a quand même, merci Seigneur. Bon. Qui c'est ce bonhomme? C'est quelqu'un qui, à l'époque de l'Union soviétique, on est donc en URSS sous l'ère soviétique, il avait lancé un mouvement chrétien qui s'était répandu dans toute l'Union soviétique. Et nous savons qu'à l'époque, être chrétien sous le régime soviétique, ce n'était pas une bonne situation, c'était très dangereux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est emprisonné. Il se retrouve au goulag Perm 36 de 1978 à 1987. Donc, le KGB l'emprisonne, nord de la Sibérie. Une nuit, les gardiens le jettent dans une cellule avec une fenêtre cassée. Qu'est-ce que voulait le KGB? Il voulait qu'il meure. Il faut comprendre là-bas que... dernièrement, j'ai vu un reportage sur une ville de Sibérie. Moins 37 degrés, ceux qui habitent là-bas, ils disent « il fait bon ». C'est pas... Vous pouvez répéter la question, comme dans les inconnus, c'est « vous pouvez répéter l'affirmation, s'il vous plaît ?» Moins 37 degrés, il fait bon. Ah ben oui, il ne faut pas moins 45, il ne fait pas moins 50. Hein. Moins 37, ça va, il fait bon. Tout est relatif, hein. Pas vrai? Voilà, donc, la nuit, ça peut descendre jusqu'à moins 50 degrés. Donc, vous imaginez que là, on meurt gelé. Voilà. Alors, le pauvre Alexander, il se sent tellement abattu sur le plan moral, tellement découragé, tellement angoissé. Il se pose les questions suivantes. Mais Dieu m'a-t-il vraiment abandonné? M'a-t-il oublié? Et dans son désespoir, il commence à prier de la façon suivante. Et quand je dis qu'il prie, il dira lui-même, j'ai crié à Dieu, littéralement, il a crié dans les larmes. Dieu, m'as-tu abandonné? Et à ce moment-là, une chrétienne chinoise, à des milliers de kilomètres de là, se réveille après avoir fait un rêve dans lequel Dieu lui dit de prier pour un Alexander qui se trouve là-bas en Russie. Et donc elle commence à prier. Plus tard, elle continuera à prier pendant plusieurs mois avec son église. Et au moment où elle commence à prier, Alexander ressent une chaleur, c'est ses propres mots, comme celle d'une mère qui tient son enfant frigorifié contre son sein, pleurant de compassion pour lui. Il ressent une chaleur humaine, très vivante, qui pénètre son cœur. Et de son cœur coule, c'est ses propres mots là encore, une paix merveilleuse, majestueuse, rassurante. Il sent même des mains qui touchent ses épaules. Et Dieu est en train de lui montrer qu'il n'est pas abandonné. Ses frères, ses sœurs sont avec lui, ils partagent sa souffrance. Il dit même, là aussi c'est ses propres mots, comme si la prière avait transformé la puissance de l'amour en chaleur palpable. Le lendemain matin, les geôliers arrivent, les tortionnaires, ils sont sidérés. D'abord, ils ne comprennent pas pourquoi il est toujours vivant, mais en plus, il le touche, il a la température 37 degrés, comme s'il faisait 25 degrés. Non, là, il fait moins 40 degrés. Ils ne comprennent rien. Le médecin de la prison arrive, il dit, c'est impossible. Ben, j'ai pas d'explication. Et donc, 6 mois plus tard, l'église de notre sœur chinoise reçoit une lettre de l'ONG Portes Ouvertes qui demande à prier pour cet Alexander. Eux, ça fait déjà 6 mois qu'ils prient, tu sais. Donc, ils ont l'explication, à partir de là, ils ont l'explication de qui est cet Alexander pour lequel ils prient depuis 6 mois sans savoir qui c'est. Et en plus, donc, la demande de prière se répand dans le monde entier, les chrétiens du monde entier prient pour lui. Dénouement de tout cela, au bout d'un certain temps, Alexander a été, entre guillemets, soudainement libéré. Alléluia, il a retrouvé la liberté. Et là, tu peux mettre, s'il te plaît, la diapo numéro 4. Voyez, le psalmiste, ce qu'il nous dit, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel, j'étais malheureux, et il m'a sauvé. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Bon, là, j'ai pris un exemple un peu extrême, hein. On n'a pas besoin de se retrouver dans une situation aussi extrême et aussi grave pour que Dieu vienne nous secourir, évidemment. Que ce soit bien clair. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans des situations bien moins graves et le Seigneur est intervenu pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Encore un petit témoignage, on a le temps ? Allez, un petit. Pour la route. Non, voilà, encore. Ouais. Bon, c'était à l'époque où il y avait les conventions du Sud-Ouest qu'on appelait. Et là, c'était la deuxième convention, elle avait lieu à Saverdun. Donc, le dimanche, on rentre chez nous. Et moi, j'avais emprunté la voiture de Dominique. Comme lui, il était à Valenciennes, il ne s'en servait pas. Donc, une Renault 18, je m'en souviens. Et à un moment donné, hop, pneu crevé. Mince. Je vais voir la roue de secours. Pas de roue de secours. Ah, comment tu fais pour rentrer chez moi ? Et j'avais crevé juste en face d'un garage. Mais c'était dimanche. Et le propriétaire du garage, il était les bras croisés, un peu comme, vous savez, les vaches qui regardent passer les trains. Lui, il regardait passer les voitures. Et alors, je vais le voir. J'ai dit, monsieur, voilà, j'ai crevé, j'ai pas de roue de secours. Est-ce que vous pouvez réparer ma roue ? Il me dit non. C'est dimanche, je travaille pas. Alors j'essaie de parlementer, tout ça, rien du tout. Le gars est fermé comme une porte de prison et aussi aimable qu'une porte de prison. Alors je retourne à ma voiture, je dis bon. Et moi, comment je fais maintenant pour rentrer chez moi ? Il y avait quelques dizaines de kilomètres en Corée. J'avais pas envie vraiment de les faire à pied. Surtout qu'à l'époque, c'était, je crois, 1987, il n'y avait pas encore les téléphones portables pour dire « Hey, t'es déjà parti ? Et si t'es pas parti, tu passes par là, tu me prends, parce que moi, j'ai crevé, tout ça. » Non, là, il n'y avait rien du tout. Hein ? Et donc, je dis « Mais je suis coincé, là. » Et puis, je dis « Non, c'est pas possible. Seigneur, là, c'est pas possible. Au nom de Jésus, que cet homme, maintenant, répare ma roue. Et je veux le revoir. Et je lui refais la même demande. » Et le gars complètement retourné, charmant, et me dit, mais bien sûr, je vais vous réparer votre pneu. Alors moi, je m'attendais quand même à parlementer un peu, tu vois, à défendre mon beefsteak, même pas là. C'est le même gars que tout à l'heure, ou quoi ? C'était incroyable. Bon, c'est un exemple. Vous voyez, j'étais pas à l'article de la mort. Mais c'était embêtant quand même. J'étais coincé là. Là, j'avais pas de solution sur le plan humain. Et comme je disais, il n'y avait pas encore de téléphone portable pour appeler un tel. Ouais, est-ce que tu es déjà parti, tout ça ? Est-ce que tu passes par là où je suis pour me prendre ou quoi ? Rien du tout. Alors, je viens de raconter, juste avant, deux témoignages avant. C'était le témoignage d'une personne, donc cet Alexander, qui a connu une situation de désespoir dans un contexte de persécution. Mais ce n'était pas tellement la persécution que je voulais mettre en relief, c'était plutôt le secours du Seigneur face à une situation inextricable, donc une situation... qui était très dur pour lui. C'était plutôt le secours du Seigneur que je voulais mettre en lumière. Mais comme en introduction, j'ai invoqué la sortie de l'index mondial de portes ouvertes concernant la persécution des chrétiens. Je voudrais maintenant laisser la parole à des chrétiens marocains qui sont obligés de vivre leur foi dans le secret à cause de la persécution qu'ils subissent. Alors le témoignage ne date pas des années 70, comme celui de Alexander Ogorodnikov. Mais il est contemporain, il date en fait de juin 2024, donc pour ainsi dire aujourd'hui. Alors avant d'écouter ce témoignage, j'aimerais rappeler les dernières paroles qui sont rapportées par l'évangéliste Matthieu, dans son évangile donc, les dernières paroles de Jésus à ses disciples qu'il rapporte, et il leur dit la chose suivante. Voici. Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Et dans la vidéo qui suit, nous allons voir que ces paroles sont bel et bien véritables.
Parfois, c'est juste ce courage qu'on éprouve dans certaines situations. On sait très bien que ça ne vient pas de nous. On est des êtres humains, on est faibles. Normalement, devant certaines situations, on peut même perdre la foi. Mais non, ce n'est pas ce qui arrive. On vit des expériences où on ressent vraiment l'existence du Seigneur à nos côtés, qu'il est là avec nous. Lorsqu'on passe des situations de persécution, la famille rejette parfois les gens qui décident de devenir chrétiens, on perd ses amis et tout. Mais là, on ne se sent pas seul. On sent qu'on a une grande famille, une famille plus grande que celle qu'on avait auparavant. Et aussi, on ressent la présence du Seigneur avec nous dans ces situations. Pour nous, ce n'est pas seulement des choses qu'on lit dans la Bible, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien.
Voilà, dans ces situations donc, où nous pourrions être persécutés, voilà ce que le Seigneur nous dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme, un être humain, hein? Donc il s'agissait du psaume 27 au verset 1 et du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, versets 5b et 6. Donc, conclusion. Même quand ce n'est pas la joie et que ce n'est pas la joie, il y a toujours et encore et toujours qu'au niveau de l'amour que ça va toujours et ça ira encore, encore et toujours. Car, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la tribulation, l'épreuve? Que ça va être l'angoisse? Est-ce que ça va être la persécution? Les nations auront beau s'agiter, les situations politiques ou économiques auront beau se dégrader, notre Dieu restera toujours le même, inébranlable et toujours fidèle envers nous. Un Père céleste qui aime ses enfants et qui en prend soin. Serions-nous dans le besoin? Il pourvoira. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Serions-nous dans une situation délicate, voire de détresse? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7. Et s'il arrivait qu'un jour nous soyons persécutés pour notre foi, le Seigneur nous a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi nous pouvons affirmer, sans nous tromper, avec assurance, que notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait la terre et les cieux, l'Éternel qui tient l'univers dans le creux de sa main, qui tient la terre dans le creux de sa main, qui tient la destinée des nations dans le creux de sa main, qui tient l'histoire des êtres humains dans le creux de sa main, qui tient nos vies dans le creux de sa main. Oui, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Soyez bénis.